Moi, c'est André Limbouchmaï au Castel Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de choisir Radio Capi qui vous accorde la parole dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Le mini-sommet de la CIRGL, convoqué le jeudi dernier à New York par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur la situation qui prévaut en RDC, s'est terminé selon plusieurs presses internationales sans qu'aucun communiqué officiel n'ait été publié. Quelle analyse faire de ces assises de haute portée internationale sur la RDC? C'est la question du débat. Notre standard est déjà ouvert et réagissez en composant le 081 890 63 15 et rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net. Vous pouvez aussi déposer vos préoccupations sur notre page Facebook. Merci à Titi Poutou qui est au standard, à Pierrot et la Magie qui réalise cette émission, ainsi qu'à Guy Manzangou qui assure la mise en onde de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Radio Capi au cœur de la francophonie. Vivez les moments forts du 14e sommet de la francophonie sur Radio Capi. À partir du lundi 1er octobre, des chroniques, des magazines et des journaux vous seront proposés aux couleurs de la francophonie. La francophonie au pluriel, Radio Capi bat le rythme et donne le tempo. Au plus près du 14e sommet de la francophonie, parole aux auditeurs, au Capi Service, dialogue entre Congolais, découverte et totale énergie, en direct du village de la francophonie, du 9 au 14 octobre 2012. La francophonie, c'est sur la fréquence de la paix.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dominique Werth, vous êtes de l'Université de Liège et plus précisément conseiller scientifique au Centre d'appui en sciences politiques de l'Afrique centrale. Vous êtes notre invité, bonjour. Bonjour Dominique.
Bien.
Voilà, quelle première analyse faire de ce mini-sommet du 27 septembre dernier?
Mais écoutez, moi je pense qu'il y a évidemment une mauvaise nouvelle dans le sens où on a bien vu que ce mini-sommet convoqué pourtant par la plus haute autorité de l'ONU n'a pas pu accoucher ni d'une déclaration commune ni d'un accord puisque un des participants a quitté la séance avant la fin de cette séance. Donc c'est vrai que le fait que M. Kagame ait quitté pendant la séance la salle de réunion prétextant un rendez-vous plus important que celui de régler enfin et définitivement et durablement la question à l'est de la République démocratique du Congo dans la région des Grands Lacs, ben, c'est évidemment un signal qui est un peu décevant et qui peut en tout cas comparer comme étant plutôt un échec. Maintenant, je pense que de la RDC, du côté de la communauté internationale, il y a quand même, suite à cet événement, suite à ce mini-sommet, il y a maintenant une prise de conscience de plus en plus grande sur le fait que la République démocratique du Congo est en effet agressée sur son territoire par des forces qui sont soutenues par un pays ou des pays limitrophes. Donc je pense que sur la prise de conscience par la communauté internationale, sur la légitimité de la République démocratique du Congo dans la communauté internationale, le mini-sommet a quand même démontré qu'il y avait un réel problème, que maintenant on ne peut plus se cacher, on ne peut plus fermer les yeux. Il y a ce problème du M23 qui est soutenu, nous le pensons, en tout cas on pourrait le penser, vu l'attitude de M. Kagame, qui est soutenu quand même par le Rwanda. Donc là, je pense qu'en termes de prise de conscience, on évolue, et je pense que, évidemment, M. Ban Ki-moon et la communauté internationale, on a vu quand même la Belgique très fortement se positionner en faveur de la RDC dans le cadre de la Forme générale des Nations unies et de ce mini-sommet, et tout ceci, je pense, peut quand même faire penser qu'on va avancer vers une solution, ou en tout cas, vers un... un agenda de la communauté internationale qui ne peut pas rester vide après l'événement de jeudi passé.
Voilà, s'il faut faire parler les images, notamment cette photo qui a fait le tour du monde, où Ban Ki-moon, serre les deux mains de deux présidents. Quelle analyse faites-vous de cette symbolique?
Écoutez, moi je pense que du côté du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, c'est évidemment l'image de quelqu'un qui représente fortement son organisation, qui est une organisation dont le but principal est de pouvoir instaurer la paix partout dans le monde. Et le travail qu'il met dans le rapprochement, dans le conflit entre ces deux pays, est un travail, je pense, qu'il faut saluer. Et cette photo, même si on peut imaginer que c'est M. Ban Ki-moon qui force les deux présidents à se serrer la main, puisqu'il est obligé de mettre sa main, lui, comme secrétaire général des Nations Unies, au milieu des deux mains des présidents en question, on pourrait penser peut-être qu'il a dû forcer la main. N'empêche que je pense que c'est un signal fort que les Nations Unies veulent lancer à travers le monde en disant qu'ils sont les artisans de la paix dans le monde et que, quand il faut se mobiliser pour maintenir, pour restaurer la paix, et surtout une paix durable, eh bien parfois il faut un peu forcer la main. C'est d'ailleurs une expression en français qui dit bien ce qu'elle veut dire, et je pense que cette photo démontre bien cette expression où il faut forcer la main pour avancer vers une résolution du conflit.
Oui, avant d'accorder la parole aux auditeurs, et merci d'ailleurs à bon nombre d'entre eux qui se sont déjà enregistrés pour participer à ces débats, Dominique, ce sommet a été tenu à peu près plusieurs initié par la CIRGL, à l'issue desquelles d'ailleurs plusieurs recommandations politiques et diplomatiques ont été formulées. Pensez-vous qu'il faut autant d'assises pour une solution durable à la question de sécurité à l'est de la RTC?
Écoutez, malheureusement, je pense que les faits concrets nous disent bien et nous confirment bien qu'il faut en effet plusieurs tentatives avant d'éventuellement arriver à un résultat tangible en matière de restauration de la paix dans la région des Grands Lacs. Maintenant, je pense que toutes ces rencontres, tous ces sommets qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine, sous l'égide de la CIRGL, maintenant sous l'égide de l'ONU, font quand même qu'aujourd'hui, dans la communauté internationale, on se rend compte qu'il y a un réel problème à l'est du Congo et que ce problème n'est plus uniquement de la responsabilité soit du Rwanda, soit de la République démocratique du Congo, mais que c'est bien devenu un problème qui doit être pris en compte par l'ensemble de la communauté internationale. Et je pense que notamment les suivis qu'il va y avoir de ce mini-sommet qui a évidemment accouché d'une souris, que les suivis, et notamment je pense au groupe et au comité de sanctions, fait que la RDC et la situation à l'Est ne peut plus rester maintenant impuni et ne peut plus rester au troisième, quatrième ou cinquième point à l'agenda international. Je pense que non, même si on sait qu'il y a dans le monde d'autres régions qui sont aussi en difficulté, qui sont aussi en souffrance, maintenant je pense que tout le monde a reconnu que, en effet, ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo doit être pris en main par la communauté internationale et doit être résolu par des solutions dont on pourra discuter pendant l'émission. Il y a évidemment les solutions militaires, il y a les solutions diplomatiques, il y a les solutions internationales. Il faudra qu'on voit un peu maintenant comment avancer et régler une bonne fois pour toute la situation à l'est de la RDC. Mais je pense qu'il y a en tout cas une prise de conscience maintenant qui fait qu'on ne peut plus nier le fait que c'est une des priorités à l'agenda de la communauté internationale.
Voilà, merci Dominique. Évariste, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Évariste.
Bonjour à notre invité, M. Dominique, et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, et Évariste, vous avez suivi notre invité qui parle là d'une prise de conscience au niveau de la communauté internationale, de s'impliquer totalement quant à la recherche de la solution durable au problème qui prévoit actuellement, ou la situation qui prévoit actuellement en République démocratique du Congo. Quelle analyse vous faites-vous personnellement?
Bon, à ce niveau, j'appuie complètement notre invité en disant que c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Bonne nouvelle pourquoi? Puisque au moins une fois la communauté internationale a pris en compte et en considération, disons, les plaintes de la RDC. Donc tout ce qui a eu complainte à ces sujets formulés par, disons, notre pays, nos autorités, du moins une fois pour une fois. et nous avons senti que cela, disons, a donné, disons, des échos positifs, et ça, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, pourquoi? Je tiens à dire que vous voyez, vous venez de le dire à tout à l'heure que non, il n'y a pas eu de, ça n'a pas abouti à un communiqué final, donc il n'y a pas eu de résolution, pour moi, je peux dire ça. Je peux dire que ces ministres, c'est bien, puisqu'ils ont, il y a eu plus de conscience de la part de la communauté internationale, mais cette prise de conscience n'a pas apporté des solutions. C'est-à-dire quoi? Ils ont juste pris connaissance de la situation, ils ont convoqué ces mini-sommets, mais ça aboutit à quoi? C'est ça le plus grand problème que moi j'y trouve. Jusque-là, je comprends que les problèmes persistent, c'est la raison pour laquelle, permettez-moi les termes, vous avez vu que le président, disons, du Rwanda est sorti avant même la fin, disons, de la rencontre. Ça prouve qu'il reste toujours arrogant. Cette arrogance est, disons, est basée sur quoi? Vous trouvez qu'il y a un problème, donc il y a un angus roche dans ces dossiers. C'est pour dire que M. Kagame continue toujours à, disons, à faire confiance, disons, à ses supporters, qui, bon, je trouve que c'est toujours, disons, c'est une communauté internationale, puisque vous devez comprendre que la haute sommité, donc les hauts sommets même, disons, des Nations Unies, qui convoquent un sommet aussi d'une importance pareille, qu'il puisse sortir et, disons, vider les liens avant la fin, vous trouvez qu'il y a un angus sur le chien, ça ne va pas.
Voilà, mais... Allez-y, Évariste, rapidement.
Oui, je pourrais aussi dire qu'il y a aussi un problème du côté de la RDC, que nos autorités dénoncent et que cette dénonciation soit accompagnée de preuves tangibles et palpables. En telle date, en tel lieu, voilà, nous avons constaté ça de la part, disons, du Rwanda.
Évariste, on ne peut plus revenir en arrière, d'autant plus qu'il y a eu un rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies, qui ont mené des enquêtes et qui ont d'ailleurs fait des recommandations par rapport à ce qu'ils ont observé sur le terrain. Donc je crois qu'aujourd'hui, unanimement, les gens sont tout à fait d'accord de l'implication d'autres pays voisins dans la crise de l'Est du pays. Donc je crois que ce n'est plus un secret. Si on repose encore la question, donc au fait, on se retrouve là devant un secret de Polichinelle. Merci Évariste d'avoir appelé.
S'il vous plaît.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on va accorder
la parole à d'autres. Il y en a nombreux qui attendent. C'est pas que nous remettons, moi je remets en cause, disons, l'implication du Rwanda, mais que cela soit dénoncé avec que notre gouvernement, d'abord le président, si vous avez bien suivi son speech, il n'a pas cité le Rwanda directement, il doit le dire directement comme les autres l'ont fait. Nous avons vu le président il a pas mâché ses mots, c'est ce que nous voulons.
Voilà, Évariste, le fait que nous suivons tous l'actualité, on sait que la position du gouvernement congolais va dans les sens, c'est-à-dire que voilà, il y a l'implication des pays, de certains pays voisins dans la crise à l'Est, vous êtes sans ignorer, donc je crois que ça ce n'est plus un secret, c'est la position du gouvernement congolais. Je crois les dire autant, ça c'est un autre débat, et le dire à chaque fois qu'on se présente pour comme un bébé qui se plaint à tout moment, je crois que bon, c'est nous les concédons, c'est à votre niveau, c'est votre position. Alors Évariste, on va accorder la parole à Dominique, le temps de poser la même question peut-être à Espoir qui est à Demba. Espoir, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'équipe aussi officielle de la Radio Papi.
Voilà, comme Évariste, vous dites également, c'est vrai, vous constatez une prise de conscience de la part de la communauté internationale de s'impliquer totalement pour trouver une solution durable à ce problème de la RDC. Et vous, quelle analyse faites-vous?
Ah oui, monsieur le journaliste, la prise de conscience de la communauté internationale, c'est vrai. Nous voyons que derrière même cette communauté internationale, il doit y avoir des traîtres. Il n'y a que la RDC, la crise, qui croit à un retour de la paix durable dans l'Est du pays via l'approche diplomatique. Mais c'était d'abord le président rwandais Haché. Cela prouve d'abord sur leur force. Ce n'est pas la première fois. Au sommet qui a été tenu à Kampala 2, il est encore absent. Donc, ce qui prouve encore, c'est qu'il garde toujours sa position et il est toujours arrogant et puissant. Donc, cela aussi prouve que la RDC pouvait encore entamer une autre approche qui peut être une autre offensive militaire parce que aujourd'hui c'est M23, demain ce sera M24, M25 et au-delà encore vous avez attendu aussi les informations, les rebelles angolais et tout. Donc, bien que la frontière est toujours poreuse, nous sommes toujours obligés d'être à genoux devant cette communauté internationale, d'être à genoux devant les pays voisins, toujours des histoires comme ça. C'est pourquoi la RDC devait se changer quand même l'approche au-delà de l'approche diplomatique.
Espoir, donc pour vous, tous ces sommets sont inutiles, hein, comme le pensent certains observateurs. Ça, c'est selon vous.
Non, ce n'est pas
directement
une... Vous savez, mettre reconnaissance de la communauté internationale, parce qu'il faudrait d'abord que la communauté internationale vienne pour quand même confirmer la création de la RDC. Mais vous voyez ce que le président a fait. Il a humilié le numéro 1, le secrétaire numéro 1 de l'ONU. Donc, quand même, ça prouve qu'il y a une sale voie par derrière cette communauté internationale.
Voilà, merci Espoir. Dominique Vert, vous avez suivi tout à l'heure Évariste et Espoir.
Ben écoutez, oui, moi j'aurais voulu faire deux petites précisions. La première, c'est vrai que le chef de l'État, dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a pas cité nommément le Rwanda. N'empêche, je pense que poursuivre quand même les relations internationales et la diplomatie depuis une quinzaine d'années, vous savez bien que dans ce genre de grand messe internationale, il faut rester diplomate, bien entendu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ferme, et je pense que monsieur Kabila, le chef de l'État, a en fait vraiment joué la carte de l'apaisement, même si dans des interviews en marge de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit très clairement, on lui a posé la question très clairement de savoir quelles étaient les relations avec ses pays voisins, et il a dit avec tous les pays voisins, les 9 pays limitrophes de la RDC, je n'ai pas de problème, sauf avec un seul pays, et là il a cité nommément le Rwanda. Donc je pense que, vous voyez, on a le discours du porte-parole du gouvernement, M. Mende, qui lui est très clair et qui démontre clairement qu'il y a une implication du Rwanda et que la position du gouvernement congolais, c'est que le Rwanda est derrière le soutien et le renforcement du M23. On a le chef de l'État qui doit souffler un tout petit peu le chaud et le froid en Assemblée générale des Nations Unies, mais je ne crois pas que parce qu'il n'a pas cité le Rwanda nommément dans son discours, qu'on peut le considérer soit de traître de la nation congolaise, soit de personnes qui auraient été achetées par le Rwanda. Je pense que ça fait partie d'une stratégie de l'État congolais, des autorités du gouvernement et de la présidence congolais, qui est tout à fait, je pense, me semble-t-il, tout à fait juste et adéquate. Ça c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, mais ça concerne évidemment la poursuite des souffrances, hein, et donc je pense de la population, notamment à l'est du Congo. Donc je pense évidemment, même si tout à l'heure on a pu dire qu'on pouvait un tout petit peu se réjouir du fait qu'aujourd'hui la situation à l'est est remise à l'agenda de la communauté internationale, il n'empêche qu'il faut maintenant arrêter malgré tout, et le plus vite possible, les souffrances. Et moi je vois quand même aussi, mais je suis un observateur, donc moi je ne suis pas du tout en train de jouer l'avocat du gouvernement congolais ou des autorités congolaises, mais je vois aussi que quand même, on a vu M. Moulinj, le ministre de l'Intérieur, qui est venu à Goma, où il y a une situation d'insécurité qui est parallèle, évidemment, à l'action du M23, c'est-à-dire une situation de délinquance, d'insécurité, où il y a des bandits qui reprennent évidemment un petit peu la main dans la ville de Goma. Mais on a vu le ministre de l'Intérieur venir à Goma, et venir tenir un conseil de sécurité, et mettre en place des dispositions pour essayer d'endiguer cette délinquance violente qui vit actuellement sur Goma. Donc moi je ne crois pas que le gouvernement soit attentiste, je ne crois pas qu'il est démuni, je pense qu'il essaye de faire ce qu'il peut, et il est évident qu'aujourd'hui, même si on maintient, moi je maintiens en tout cas le fait, et je décode quand même qu'il y a toujours des soucis au niveau de la chaîne de commandement, et peut-être de la chaîne de paiement des militaires à l'est de la RDC, ce qui est une des causes éventuelles de la déstabilisation dans cette région de la République démocratique du Congo. Mais n'oublions pas que depuis aujourd'hui, depuis le 1er octobre, nous avons quand même le gouvernement congolais qui a décidé de acheminer le paiement de la solde des militaires par voie électronique avec le système du paiement par téléphone mobile. Alors pour le moment, ça ne concerne pas dans un premier temps les militaires qui sont à l'est, ça concerne les militaires qui sont à Kinshasa, qui sont au Bas-Congo, mais ça veut dire qu'on est engagé dans un processus où le gouvernement, me semble-t-il, a bien compris qu'au niveau de la chaîne de paiement de la solde des militaires, il fallait revoir les choses. Et quand on voit que ça a donné au niveau des enseignants, même s'il y a eu des couacs au début, puisque eux aussi maintenant sont payés sur un compte bancaire. On a vu quand même que le résultat, c'est que le gouvernement congolais a gagné 1 milliard de francs congolais sur le fait de payer les enseignants par le compte bancaire et plus de les payer de la main à la main. Donc, je pense qu'il y a une évolution. Elle est sans doute lente, mais elle est là, et je crois que
c'est une solution,
c'est évidemment un paiement transparent par des voies électroniques, par des voies bancaires, de la solde des militaires, où on n'a plus les sacs ou les valises de billets qui circulent dans le pays pour payer les gens. Et ça, c'est une petite évolution. Malheureusement, sur l'est du Congo, ça prendra sans doute encore quelques semaines avant que ce soit effectif.
Voilà.
Mais c'est une, je pense, un message que le gouvernement congolais a entendu dans les critiques qui ont été faites, ou les commentaires qui ont été faits par la communauté internationale dans le cadre de la situation à l'est de la RDC.
Dominique, reste encore en ligne. Nous avons Valérie qui est à Kalemie et Dadi qui est à Kinshasa. 081-890-63-15 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue. Valérie, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Bonjour monsieur, ça va?
Oui, ça va bien. Et vous, ça va bien à Kalemie?
Oui, c'est un peu bien, sauf que triste vis-à-vis de la situation qui se passe toujours à l'est du pays. Comme vous le savez, nous avons besoin d'un changement radical et non de pourparler. C'est fatigant avec de séminaires en séminaires, des conférences en conférences,
des sommets,
des réunions en réunions. Le temps que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités en main. La chose que j'aimerais juste encore réitérer la confiance des Congolais est celle de savoir. Lorsque les experts de l'ONU ont publié le rapport de nombreuses pages justifiant que le Rwanda est en train d'agresser le Congo, j'espère bien que Ban Ki-moon, le secrétaire des Nations Unies, est au courant de la publication. Maintenant, quelle a été la réaction de la communauté internationale face à ces problèmes? Vis-à-vis du sabotage qu'a manifesté le président rwandais, il y a un journaliste, un bonjour que je suivais, la conférence hebdomadaire de la MONUSCO. Il y a un journaliste qui posait la question au représentant de chef de la MONUSCO en RD Congo. On lui a posé la question, quel est ou qui sont le parrain du président rwandais? Cette question était très délicate, on est chaud de la résoudre et de la répondre. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, à quoi sert le mini-sommet de New York?
Donc vous partagez les mêmes avis avec d'autres observateurs qui pensent que les sommets-là étaient inutiles, étaient d'ailleurs de trop.
Oui, ce qui est vrai, mais la grande inquiétude, c'est au niveau de l'opposition congolaise. Parce que vis-à-vis de l'actuelle situation qui se prévoit à l'est du pays, c'est tous les Congolais qui doivent être vigilants. Il n'est pas à jeter l'éponge du côté de la majorité en disant que la majorité, le chef de l'État n'a rien dit. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est connu de tout le monde. Sauf que la seule chose qui manque est qu'on invite la population d'être vigilante. La question que je me pose, qui sont en train de percevoir l'argent au niveau des ressources là-bas? Ce ne sont plus des Rwandais. C'est nous-mêmes les Congolais qui sommes à la base de tout ce qui prévoit dans notre pays. Donc, comme notre invité là, c'est très intéressant, comme la communauté internationale elle-même est très consciente qu'elle a été sabotée. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez me le dire, que la responsabilité de Ban Ki-moon face à ces 10 sommets qui n'a pas abouti à une solution palpable. Voyez-vous même que le Rwanda, derrière lui, il y a...
Oui, donc selon vous, Valérie, le sommet a accouché d'une souris, du fait qu'il n'y a pas eu un engagement des uns et des autres. Donc, en fait, il n'y a pas eu un communiqué officiel. C'est ainsi que vous évoquez l'échec.
Oui. Parce que, monsieur, vous pouvez partager le même point de vue qu'avec moi. Bon, quant à ce sommet, dis-moi, quelle est la leçon que nous pouvons tirer quel est l'intérêt de ces sommets que nous pouvons en tirer aujourd'hui en bénéficier que ce ministre.
Bon, au moins il s'est tenu.
Un problème qui continue. Les morts sont enregistrés du jour au lendemain. Et pour le moment, je vous parle, il y a des gens qui sont en train de gâcher leur vie de là.
Oui, la communauté oui, Valérie, pour votre
hier, là, quand je suivais la France 24, c'est juste au problème de la Syrie. Qu'est-ce qu'a-t-elle dit, la dite analyste dira que bravo à la communauté internationale. Et parce qu'elle échoue d'apporter une solution plus claire au niveau de la Syrie. Mais qu'est-ce que dire de nous? C'est un problème qu'il faut toujours mettre en quarantaine. Or, c'est un problème qui doit être résolu le plus tôt possible. C'est une mère de nous faire.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Rappelons que d'ailleurs, à Kampala, malgré l'absence du président rwandais, les participants avaient pris des engagements, ils avaient formulé quelques recommandations. Et je crois qu'il y a un suivi qui est fait sur le terrain. Nous avons vu, une équipe des experts de la CIRGEL qui est descendue sur le terrain pour évaluer la modalité ou des modalités de la mise en place ou la mise sous pied de cette force neutre. Voilà. Donc nous pensons également que ces mini-sommets des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, pourraient avoir aussi, en tout cas on engagera, un suivi. Dadi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Dadi.
Oui, bonjour.
Oui, comment réagissez-vous Dadi?
Oui, ma réaction est la suivante. Avant de réagir, une petite observation. Nous pensons peut-être, nous pensions que lors de ces mini-sommets, le secrétaire général des Nations Unies avait voulu assez qu'il y ait en fait des résolutions visant le rétablissement de la paix à l'Est entre le Congo et le Rwanda. Mais on a vite compris que 45 minutes de réunion, le président Paul Kagame avait décidé, prétendant bien sûr qu'il avait d'autres rendez-vous très importants que ces sommets. Là, ça témoigne aux yeux de la communauté tant nationale internationale que le président rwandais n'a pas les soucis à ce qui est la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Car vous constaterez avec nous que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est toujours au profit du Rwanda, parce que le Rwanda profite quand même de beaucoup de choses. Mais la proposition, c'est quoi? La proposition, c'est que moi, je pense la meilleure des solutions, on a fait tout du point de vue politique, diplomatique, pour amener le président Paul Kagame à accepter à ce qu'il y ait la paix à l'est du Congo. Mais le président Paul Kagame n'a pas accepté. Mais la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Que le secrétaire général des Nations Unies propose maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y ait l'application de l'article 7 visant l'utilisation de la force pour pouvoir rétablir la paix à l'est. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, si je prends l'exemple du Mali, vous voyez aujourd'hui, même la communauté internationale accepte à ce qu'il y ait l'utilisation de la force, parce que le Mali est occupé, l'Est de la République démocratique du Congo est occupé. Pourquoi ne pas appliquer l'article 7 des Nations Unies?
Voilà, merci Dadi, et nous prenons rapidement Gabi qui est à Goma. Bonjour Gabi.
Bonjour monsieur.
Voilà, comment réagissez-vous Gabi?
Bon, selon moi, je trouve que le sommet de New York là nous a vraiment un peu déçus, d'une part, et d'autre part, nous a un peu satisfaits. Déçus du fait que le président rwandais, qui fait partie des partis au conflit, a claqué la porte. Donc, cette attitude-là, vraiment, nous a un peu déçus. Ça montre combien de fois il semble qu'il n'a pas vraiment l'intention, c'est pas où les soucis de trouver une solution au problème de l'Est, notamment ici au Nord Kivu. Pendant que vraiment, nous, la population, on n'a pas, entre nous, donc la population congolaise et rwandaise, nous n'avons pas de problème en vrai dire. Soit on trouve que c'est le président seulement du Rwanda qui a un agenda caché concernant l'Est de la RDC. D'autre part, je trouve que ça a un peu satisfait du fait que, avec cette attitude-là, ça fait un peu, c'est pas convaincre au moins la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il puisse quand même prendre conscience et puis trouver une meilleure solution au problème de l'Est. Et puis, je peux encore ajouter, notre gouvernement, je pense que c'est suite à ces multiples, c'est pas, ces urbanisations qui nous ont amené à cette histoire. Parce qu'en fait, c'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui permet quand même à tout État membre des Nations Unies, lorsqu'il se voit un peu agressé par une armée étrangère, il peut se défendre, donc il a le droit légitime, naturel de se défendre. Alors que notre armée, il est encore trop faible. C'est pourquoi je conseille quand même que les États-Unis, notamment les États-Unis, parce que je trouve que si les États-Unis aujourd'hui décident que les problèmes congolais plutôt puissent avoir des solutions directes, parce qu'on se souvient lorsque l'armée rwandaise, à l'époque du président George Bush, l'armée rwandaise était entrée au Congo, et lorsqu'il avait convoqué le président rwandais et congolais au niveau de New York, il avait dit à monsieur Kagame de retirer ses troupes au niveau du Congo, et on avait vu tout de suite là l'armée rwandaise en train de quitter le sol congolais. Donc, je trouve que le président rwandais a un soutien fort donc des États-Unis, c'est pourquoi il est en train de s'inquiéter aujourd'hui. Donc
Gabi,
je souhaite que les États-Unis lui-même puissent prendre les choses en main. Et la solution sera immédiate.
Merci beaucoup, Gabi. On traverse de l'autre côté au Congo-Brazzaville pour retrouver Joe qui est à Brazzaville. Joe, bonjour. Voilà, Joe, oui. Bonjour.
Une parenthèse d'abord. Je voulais me plaindre de votre réaction de tout à l'heure quand vous dites qu'il ne doit pas répéter chaque fois le nom du Rwanda comme un bébé. Hein? Dites-moi, dans quelles circonstances Monsieur Joseph Kabila a-t-il déjà dit que la RDC est agressée par le Rwanda?
Voilà, vous avez...
Allô?
Oui, allô, Joe. Vous venez peut-être nous prendre en cours de l'émission.
Allô?
Joe, vous êtes avec nous? Voilà, Joe.
Oui, je vous écoute.
Mais allez-y, quelle est votre réaction?
Allô?
Allô, je vous suis, Joe. Voilà,
allez-y. Oui, je vous écoute.
Voilà, mais on vous a posé la question, comment réagissez-vous par rapport à ce mini-sommet?
Donc, pour moi, c'était un mini-sommet de plus pour rien. Pour rien, parce qu'on essayait de voir il y a quelques semaines, en Uganda, M. Kagame n'était pas venu. Et là, il a claqué la porte le jeudi de la semaine passée. Vous vous rendez compte? Pour moi, ce sommet n'a pas de valeur. Ce sommet n'a pas de valeur, et puis vous devez comprendre quelque chose. C'est que le président de la République doit s'assumer. Il doit parler, même après que Kabila ait claqué la porte. Monsieur, je veux dire, Kabila n'a rien dit jusque-là.
Voilà. Alors,
je suis le président de cette République démocratique du Congo du temps.
Voilà,
c'est à lui de s'assumer.
Voilà, et Joe, je crois que...
C'est énormément le Rwanda, monsieur.
Voilà, ok.
Ça nous donnera tous courage.
Oui, Joe, s'il vous plaît, est-ce
ça nous donnera courage, monsieur.
Voilà, Joe, oui. Vous connaissez la position du gouvernement congolais par rapport à cette situation? Oui, je disais...
La position du gouvernement congolais.
Oui, par rapport à cette situation. Oui, connaissez-vous la position du gouvernement congolais par rapport à cette situation, par rapport à la crise de l'Est?
Le gouvernement est amorphe. C'est comme si c'était de bébé qui n'attendait que ce que le grand frère va donner. Le gouvernement ne doit pas se comporter comme de petits enfants.
Mais
le gouvernement doit s'assumer.
Voilà.
Aussi.
Peut-être vous n'êtes pas informé.
Oui. Vous savez, monsieur.
Oui, Joe, si on peut s'écouter.
On n'a pas une armée forte qu'on doit se laisser marcher sur les orteils. Non.
Oui, Joe, si on peut
s'écouter. On peut tous combattre pour notre pays.
Voilà, Joe, si on peut s'écouter, c'est vrai qu'on l'essaie, par la voix d'ailleurs de porte-parole du gouvernement. Le Rwanda a été cité nommément comme le pays voisin qui est très impliqué dans le soutien du rebelle M23. Donc je crois qu'on ne peut plus revenir sur ça pour dire qu'on ne connaît pas la position du gouvernement congolais. Mais néanmoins, votre inquiétude, elle est tout à fait pertinente, comme d'autres, pour d'autres auditeurs qui pensent que il y a eu plusieurs tentatives, de recherche de solutions durables dans cette situation, mais disons dans la recherche des solutions au niveau diplomatique et politique, ça n'a pas marché. Ça, c'est selon les auditeurs qui ont parlé tout à l'heure. Maintenant qu'il va y passer directement à la solution militaire. Bon, voilà, on verra avec notre invité qui est le conseiller scientifique au centre d'appui en sciences politiques de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. On boucle cette série des auditeurs avec Sylvain qui est à Kindu. Bonjour Sylvain. Sylvain, vous êtes à Kindu,
Sylvain. C'est Sylvain, mais je suis dans la ville de Bounia.
Voilà, vous êtes à Bounia.
Oui.
Oui, allez-y Sylvain.
Bien. Je vous salue, je salue tous les auditeurs de la radio Capi. J'interviens en ma qualité du porte-parole de l'Union des Patriotes Congolais, un parti politique de l'opposition qui analyse soigneusement la question politique du pays.
Oui, bon, ici vous... Sylvain, s'il vous plaît. Vous intervenez ici comme auditeur, comme tous les autres auditeurs qui font des analyses. Hein.
Exactement.
Voilà, allez-y.
Nous analysons, nous personnellement, mais aussi mon parti politique, l'Union des Patriotes Congolais, la situation politique du pays, et nous disons que rien ne marche. La guerre de l'Est, pour laquelle il y a plusieurs assises, commençant par Kampala 1, Kampala 2, et aujourd'hui ministre sommet Nations Unies, ne sont que des conséquences de la mauvaise gouvernance de l'État congolais. Nous avions déjà dit, depuis le mois de mai 2012, que la gestion politique de ce pays devait être centrée autour des problèmes congolais. Et nous avions seulement regretté le fait qu'il y a absence de la politique de la bonne gouvernance.
Oui, Sylvain, selon vous, quelle devait être la priorité pour résoudre les problèmes de l'Est? Quelle doit être la priorité? Quelle doit être la démarche à suivre? Est-ce que c'est une démarche diplomatique, politique ou militaire, selon vous, Sylvain?
Si vous suis politologue de la formation, mais oui, aussi diplomate de la formation.
Oui, allez-y, pour vous.
Je ne souhaite pas que ce soit militaire.
Okay.
Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu dernièrement au sommet de la 60e Assemblée générale de l'ONU. Je souhaite que tous les mécanismes diplomatiques, politiques soient mis en avant. Mais la question qui est là, ce n'est pas de voir l'extérieur, voir d'abord l'intérieur. La RDC a des problèmes auto-centrés. Il faut résoudre ça d'une manière interne, puisque le reste du pays, c'est à l'intérieur du pays, ce n'est pas l'extérieur du pays. Le gouvernement de Kinshasa doit adopter une politique. Pour terminer, je dis ceci. Monsieur Matata Ponyo doit analyser soigneusement quel est le problème de l'Est qui doit englober le problème congolais et quelle piste de solution donner. Je pense que le problème, il est purement politique. La façon de gérer le pays dans l'unitarisme ne convient pas. Il faut aller au fédéralisme.
Voilà, je crois que le débat du jour, ce n'est pas la forme de l'État, quelle est la forme à adopter. Donc je crois que c'est une question qui doit être insérée dans les débats au niveau du Parlement et au niveau, au fait, des dirigeants des partis politiques. Merci Sylvain d'avoir appelé et surtout d'avoir apporté quelque chose dans cette réflexion. Nous prenons Rifin qui est à Kikwite. Bonjour Rifin.
Bonjour JR, vous m'entendez?
Oui, nous vous attendons, on vous écoute très bien Rifin. Comment réagissez-vous?
Bon, moi, j'ai réagi de cette manière que, vraiment, nous, les Congolais, nous ne pouvons pas compter sur tous ces sommets-là. Nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, c'est elle qui est à la base des guerres qu'il y a au Congo. Le plan de la balkanisation du Congo. Vous voyez, d'abord, c'est le président Bill Clinton qui a lancé ce plan en 1996. Après, c'est le plan Herman Cohen. Et il y a eu le plan Sarkozy en 2009. Donc, tous ces accords, toutes ces rencontres-là ne vont rien arranger pour les Congolais. Parce que ce sont de la communauté internationale qui organise toutes ces guerres. Le Rwanda n'est qu'un enfant. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, quand un poussin remplit la marmite, c'est sa mère qui est derrière. Donc, vous avez vu la réaction du Rwanda, le président Paul Kagame qui sort de cette rencontre-là, il ne signe même pas le communiqué final. Parce qu'il sait qu'il a l'appui international. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on amène comme négociation, tout ce qu'il y a comme pour que nous allions au niveau de la communauté internationale, c'est distraire les Congolais. Nous n'aurons pas de solution. La solution à notre problème est militaire. Il faut que nous organisons notre armée et nous-mêmes, les Congolais, nous prenons les choses en main. Donc, tout ce qui se passe, c'est la distraction. Entre-temps, quand on dit qu'il y a la force neutre qui va intervenir, alors quel est le rôle de la MONUSCO? La MONUSCO est dans notre pays, avec 17 000 hommes. La MONUSCO n'arrive pas à mettre fin aux guerres. Et nous allons toujours compter communauté internationale, communauté internationale. Non. Congolais, organisons-nous, organisons notre armée. Le problème de la sécurité de notre pays nous revient. Donc tout ce que nous sommes en train d'attendre là-bas, oh, on appelle le président à tel dialogue, à telle rencontre, et puis c'est une trahison. Le président Kabila n'a même pas cité le Rwanda.
Voilà, Ruffin, je crois que nous devons dépassionner les débats, comme j'aime bien le dire, hein, parce que là, vous nous avez pris en cours de l'émission, l'invité a insisté, et puis il va encore revenir sur cet aspect des choses. Je crois que quand on organise des mini-sommets ou des sommets, c'est juste dans le but de pouvoir rechercher une solution durable, pour éviter à ce qu'il y ait cette spirale, hein, ce cycle qui ne s'arrête pas, de guerres successives au niveau de l'Est. Merci Ruffin d'avoir appelé. Nous terminons cette deuxième série avec Joseph qui est à Bukavu. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Comment réagissez-vous Joseph?
Bon, de ce que j'aimerais ajouter à propos de l'émission et à propos du sommet, toute population attendait un bon résultat. Malheureusement, c'était... Et je pense que le président a utilisé un bon système en tant que garant de la nation, il ne pourrait pas dénoncer. Mais il a utilisé un bon style. En tant que population, nous déplorons tout ce que nos prédécesseurs viennent d'ajouter. Les sommets, tout ce qu'on fait, je pense que c'est inutile. Puisque si vous arrivez ici à l'Est, c'est précisément à Goma. Ces derniers temps, il y a déjà 3000 déplacés. Alors, les sommets là, nul n'ignore de ce qui se passe, même les gens, disons, des États-Unis, toutes les nations, mais le seul problème est pour qu'on puisse avoir une meilleure solution, il faut qu'il y ait l'armée congolaise. Puisque le problème, c'est le problème interne et pas externe de tout ce qui se passe. Je pense que nous sommes au courant, nous ne sommes plus des enfants. Même si on part aux États-Unis, on part où pour demander des aides, c'est inutile. Le problème doit être géré ici au Congo, puisque c'est l'armée qui n'est pas vraiment en bonne marche.
Donc pour vous, c'est une solution militaire. Merci Joseph. Dominique Werth, vous êtes avec nous. Nous rappelons que vous êtes conseiller et scientifique au Centre d'appui en sciences politiques de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors comment réagissez-vous par rapport à les réactions?
Écoutez, moi j'ai quatre choses à dire et à partager avec vos auditeurs et ceux surtout qui ont pris la parole, et je les en remercie vraiment parce que toutes les interventions étaient vraiment très intéressantes. Alors d'abord la première, c'est vis-à-vis des États-Unis, et lié à ça, faut-il encore s'appuyer ou pas sur la communauté internationale? Par rapport aux États-Unis, je pense que Washington, et notamment Madame Hillary Clinton, n'a pas ménagé ses efforts pour tenter pendant et dans les couloirs de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu la semaine passée, n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de concilier, en tout cas peut-être l'inconciliable aujourd'hui, mais d'essayer de concilier et la République démocratique du Congo et le Rwanda. Elle n'y est pas arrivée, mais je pense qu'elle ne l'a pas, si elle n'y est pas arrivée, c'est pas qu'elle n'a pas voulu y arriver. Elle a vraiment mis toute son énergie, moi j'ai quelques notes et quelques informations qui me reviennent de New York, comme quoi elle a vraiment essayé, et la volonté des États-Unis, c'est d'arriver à une solution à l'est de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, justement, par rapport à cette communauté internationale, je pense qu'il ne faut pas ni considérer l'intervention ou l'implication de la communauté internationale comme voulant des
démontré que la République démocratique du Congo n'est pas un État indépendant, autonome et serein.
Voilà, Dominique. Voilà, on a perdu Dominique. Je crois qu'on va, on va tenter de récupérer Dominique qui n'est plus en ligne. Hein. Voilà, on va essayer avec Pierrot de relancer Dominique pour qu'il poursuive cette émission avec nous et surtout apporter quelques éclairages par rapport aux préoccupations des uns et des autres. Mais entre temps, nous prenons Eddy qui est à Lubumbashi. Eddy, vous êtes en ligne. Bonjour Eddy.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Voilà Eddy, comment réagissez-vous?
Bon, la première des choses, j'aimerais d'abord dire à mes frères congolais d'éviter d'être pessimistes. Pour moi, je crois que le sommet qui a eu lieu à New York a beaucoup avantagé notre pays. Les gens qui disent que Kagame est sorti 45 minutes avant la fin, mais c'est une faute de sa part. Il a montré qu'il est arrogant. Alors, il y a des gens qui vont lui montrer que ils sont plus forts que lui. Moi, je suis très sûr que chez eux, ses collaborateurs sont en train de lui dire que tu as commis une faute. Kagame n'est pas très fort. Les gens disent que c'est parce qu'il est confiant qu'il a des soutiens. Mais quel soutien encore? Les gens veulent parler. Les États-Unis, ils viennent dernièrement de prendre une sanction, même symbolique, de 200 000 dollars de suspension. Il y a il y a plusieurs pays qui ont pris des décisions pour suspendre leur aide. Et dernièrement, la dernière, la plus forte, c'est que l'Union européenne conditionne d'autres versements par la solution du problème au Congo. Les gens qui parlent aujourd'hui, M. JR, ils ne connaissent pas très bien l'histoire de ce pays. Rappelons-nous en 2001 comment la situation était quand Joseph Kabila a pris le pouvoir. Il était le président qui a dû un tiers de ce pays. Le Nord Katanga était occupé, tout le Kivu, tout le Maniema, l'est de la province orientale, toute la province orientale, le nord du Bandundu, le nord de l'Équateur. C'est grâce aux actions politiques, diplomatiques et même militaires que aujourd'hui, pendant que nous parlons que de M23 qui sont le long de la frontière rwandaise dans deux territoires, le Rutshuru et le Masisi.
Okay.
Alors qu'à l'époque, rappelez-vous même de la guerre qui a eu lieu en 2000, les Ougandais, les Rwandais se sont battus à Kisangani.
Oui, même les touristes n'étaient pas épargnés.
Aujourd'hui, il y a une très grande évolution. Rappelez-vous encore en 2009, M. JR, lorsque nous nous sommes battus contre le CNDP. À cette époque, le Rwanda était derrière toujours le CNDP, mais personne n'avait pointé le Rwanda. Mais aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Rwanda est dos au sol. Maintenant, il y a des gens qui disent Kabila, il n'a pas nommément cité le Rwanda. Mais il faut être sérieux lorsqu'on dit qu'il faut des voies diplomatiques. En diplomatie, pour être fort, il faut être diplomate. Il faut mettre les gants. Il ne faut pas être populiste, c'est-à-dire en train de dire des choses qui font plaisir aux oreilles. Il faut être diplomate, il faut être stratège, il faut demeurer. Moi, je conseille à notre chef de l'État de rester diplomate quand il fait la diplomatie. De ne pas suivre les opposants qu'il faut que crier. Regardez dans les sites des partis politiques. Il n'y a nulle part, eux, ils ont condamné le Rwanda, nulle part. Nous sommes en train de suivre la
voilà, et dit parce que tout. Le temps nous fait défaut, on va retenir que l'erreur diplomatique commise par le Rwanda lors de ce mini-sommet doit être à l'avantage de la RDC, hein, selon vos propos.
Pardon, je termine par ceci.
Oui, rapidement,
parce que
rapidement.
Dernièrement, lorsqu'il fallait prendre des sanctions contre le Rwanda, il y avait des gens qui parlaient pour lui, entre autres l'Allemagne. Mais avec ce geste du Rwanda, je vous dis la vérité, d'ici là vous allez apprendre qu'il y aura des sanctions.
Voilà.
Parce qu'on se rend compte que maintenant, il est arrogant,
Nous retenons une chose, que l'erreur diplomatique, cette erreur diplomatique du Rwanda doit être à l'avantage de la RDC, selon vous, et la RDC doit utiliser en tout cas cette erreur comme fonds de commerce maintenant pour rendre encore sa diplomatie très efficace, afin de pouvoir trouver gain de cause. Merci d'avoir appelé. Nous prenons donc Arsène, qui est à Kikwit. Avec lui, on va terminer, mais il est temps d'abord d'accorder la parole à notre invité, Dominique Welt. Comment il réagit par rapport à cette intervention d'Eddie depuis le Lubumbashi, et nous revenons par rapport aux réactions passées. Et donc des gens étaient trop pessimistes en disant plusieurs tentatives, toutes les tentatives de recherche n'ont pas abouti, en tout cas avec la méthodologie utilisée donc dans la diplomatie et sur le plan politique. Maintenant, il faudrait passer directement à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'option militaire. Dominique Wade.
Oui, désolé, nous avons été coupés. Vous voyez que les réseaux téléphoniques, même en Belgique, parfois peuvent faire défaut.
Voilà.
Et donc, il n'y a que dans certains pays. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, oui, je voulais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure avant d'être interrompu par la technologie belge. La communauté internationale, l'intervention, l'implication de la communauté internationale dans la question à l'est de la République démocratique du Congo ne doit pas être comprise comme étant une vision ou un constat qui démontrerait que la République démocratique du Congo n'est pas un pays adulte. Ce n'est pas ça du tout. On n'est pas là en train, la communauté internationale, quand elle réagit, quand elle s'implique dans la situation du pays à l'est, mais c'est surtout d'abord parce qu'il y a quand même une population qui est violentée quotidiennement dans cette partie du monde, qu'il y a 300 000 personnes qui sont déplacées et qu'elle se doit d'intervenir comme elle interviendrait ou comme elle pourrait intervenir partout ailleurs dans le monde. Et quand elle intervient, ce n'est pas évidemment pour dire comment il faut faire, mais c'est vraiment, comme l'a fait M. Ban Ki-moon, pour tenter de trouver une solution et surtout une solution pacifique au conflit qui existe entre les deux pays. Alors, troisième chose, si on a évidemment cette implication de la communauté internationale aujourd'hui, comme on le voit, on peut la contester, on peut la mettre en question, on peut en douter, on peut la critiquer, n'empêche que c'est aussi parce que le monde aujourd'hui est mondialisé, et il est évident que dans la mondialisation telle qu'elle est mise en route depuis maintenant une quinzaine d'années, les ressources naturelles qui sont dans le sol de l'est de la République du Congo intéresse l'ensemble de la planète. Et donc, je pense qu'il y a aussi, de la part de la communauté internationale, si elle intervient, c'est à cause de cette mondialisation qui aujourd'hui est devenue la règle un peu partout dans le monde. Et donc ça, on peut là aussi, je pense, se poser des questions sur l'intérêt réel de la communauté internationale par rapport à une pacification ou une non-pacification dans cette région-là, compte tenu de ses richesses dans le sol congolais. Et quatrième chose, ce que je voulais dire, je pense qu'il y a quand même, suite à ce mini-sommet, qui est en effet une forme d'échec, il y a quand même un avantage, ou en tout cas un petit avantage, qui consiste à, et c'est dans le calendrier, si vous reprenez la fameuse résolution 2021 qui a été votée au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui instaure le comité de sanctions par rapport à la RDC et au Rwanda. On voit bien que dans cette résolution 2021, il y est inscrit nommément la date du 19 octobre 2012 comme étant la date où les experts de ce comité de sanctions doivent redonner un nouvel avis et donc un nouveau rapport sur où en est-on dans les violations contre l'embargo qui a été voté sur le trafic des armes dans la région, sur l'embargo par rapport à l'exploitation illicite des richesses dans le sol congolais. Et donc, je pense que le comité de sanctions qui va devoir redonner un nouveau rapport dans les jours qui viennent, on n'est pas sur des délais à plusieurs mois, on est vraiment sur des délais à quelques semaines, puisqu'il doit donner son rapport le 19 octobre, et que début novembre, le Conseil de sécurité va devoir de nouveau remettre une liste, hein, puisque pour peut-être éclairer un peu vos auditeurs, ce comité de sanctions a été mis en place au moment où on a eu l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000, au début du 21e siècle, et où on s'était rendu compte que finalement, les sanctions telles qu'elles étaient prévues au préalable, auparavant, étaient des sanctions qui étaient très, très peu mises en application. On a dit, il faut absolument renforcer ce volet de sanctions, parce que c'est bien de faire de la diplomatie, c'est bien de faire de la discussion, c'est bien de faire des sommets, mais il y a un moment où quand on voit qu'il y a un État membre des Nations Unies, un État membre des Nations Unies, qui viole perpétuellement ou de manière permanente ses droits et les droits, le droit international, eh bien, il y a des sanctions qui doivent être prises. Et le comité qui va devoir déposer son nouveau rapport au Conseil de sécurité va devoir mettre à jour la liste des personnes, des entreprises, des sociétés qui violent la résolution 2021. Et donc là, je pense qu'on peut avoir, et je pense que vu la manière dont le mini-sommet s'est terminé, s'est conclu, c'est-à-dire sans déclaration et avec un des États partis qui a quitté la réunion en cours de séance, mais je pense que le comité va pouvoir maintenant encore plus clairement que fin août, quand on avait eu les annexes du rapport des experts où on voyait bien que le Rwanda...
Oui, rapidement, Dominique, parce qu'on a plus assez de temps.
Le soutien du M23... Ici, je pense qu'on va pouvoir avoir des sanctions plus fortes.
Voilà, Dominique, si on peut...
Surtout,
oui, Dominique, si on peut citer rapidement, parce qu'on a plus assez de temps, donc juste pour 30 secondes.
Oui.
30 secondes.
Et je dis simplement, dans ce cadre-là, les pays qui étaient plutôt amis du Rwanda jusqu'il y a quelques jours, je pense qu'eux vont maintenant devoir prendre conscience et prendre leurs responsabilités en rejoignant les conclusions du nouveau rapport du comité des experts du comité de sanctions.
Voilà,
et je pense que ça va permettre de pouvoir mettre encore une fois la pression de manière peut-être plus forte, plus claire et peut-être plus efficace sur le Rwanda dans le fait qu'ils sont derrière le soutien du M23 et qu'ils
voilà,
sont évidemment...
Merci à vous, Dominique
Bert,
d'avoir répondu à notre invitation et merci également à vous tous qui avez suivi et participé avec attention soutenir à cet échange. Arsène de Kukuit, Émile de Mujimaï, vous vous êtes inscrit pour participer à cette émission. Dommage, on vous prendra peut-être prochainement. Merci à vous tous. Donc, vous êtes nombreux hein, à nous écrire à travers le monde. Nous saisissons cette occasion pour vous dire merci de votre attention également soutenue au programme des Radio Capi et plus particulièrement à Parole aux auditeurs. Merci notamment à William Caputou qui nous a écrit de Londres. Demain, Parole aux auditeurs s'intéressera à la tenue du sommet de la francophonie en RDC à 10 jours de l'ouverture de ses assises, le voix s'élève pour s'assurer des enjeux de cette grand-messe internationale qui se déroulera du 12 au 14 octobre prochain dans la ville-province de Kinshasa. Quelle analyse faites-vous de la tenue de ce 14e sommet de la francophonie en RDC? C'est la question au cœur du débat. Votre commentaire, faites-le-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net. A très bientôt et bonne suite des programmes sur Radio Capi.